Il est midi sur Radio Orient, le journal Loïc Barrière. Les législatives au Liban, dimanche, quels sont les pouvoirs du Parlement? Quel rôle a joué le Hezbollah avant le scrutin? Nous écouterons la journaliste Maya Kadra, elle est l'une des invitées de « Et si on en parlait ?» ce soir sur Radio Orient. L'ONU s'inquiète de l'impasse politique en Irak, 7 mois après les élections législatives. L'Union européenne et les pays du Golfe annoncent un renforcement de leurs relations, notamment sur l'écologie. Le décès de Françoise Rudetsky, fondatrice de SOS Attentat. Enfin, Sofia Ossini, candidate aux élections législatives à Marseille, était l'invitée de Pluriel hier soir, extrait dans ce journal. Au Liban, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a appelé les députés élus dimanche à coopérer. Selon lui, aucun groupe parlementaire ne peut prétendre avoir obtenu la majorité. Lors de ce scrutin, le bloc parlementaire mené par le Hezbollah a perdu la majorité et des députés indépendants ont été élus. Ce soir, à 19h et 23h, votre émission « Et si on en parlait ?» analysera les résultats de ces élections. Alexis Bachelet recevra le politologue Qatar Abou Diab et la journaliste Maya Kadra. Maya Kadra qui rappelle les pressions exercées par le Hezbollah avant le scrutin. Elle évoque aussi les pouvoirs du Parlement libanais. On l'écoute.
Nous avons vu un peu que le Hezbollah est acculé bien avant le scrutin. Le Hezbollah n'a pas lésiné sur les moyens quand il s'est agi de menaces contre certains candidats. Je rappelle que dans la circonscription de Baalbek El Hermel, là où le Hezbollah est très très présent d'une manière armée même et pas uniquement présent populairement, 3 candidats chiites sur la liste adverse sous la menace ont été obligés de se retirer de cette liste. Sachant que ça, ce n'est ni constitutionnel, ni légal, ni quoi que ce soit, ça n'a pas invalidé en fait la candidature des autres candidats présents sur cette liste, mais sous le coup de la violence, beaucoup de candidats n'ont pas osé se présenter aux élections ou bien se sont retirés des listes aussi. Il a tout fait en fait pour renflouer son allié chrétien, Gebran Bessil, qui est à la tête du CPL, le courant patriotique libre aussi. Donc ce bloc-là que vous considérez ou bien qu'on qualifie de chrétien a été élu à 50% par des votes chiites. Donc c'est un cadeau offert par le Hezbollah à son allié chrétien parce qu'il a toujours besoin de cette ombrelle, soi-disant, de légitimité chrétienne. C'est comme ça, en fait, qu'il a pu réussir à infiltrer les institutions depuis 2006 et les accords de Mar-Mikhaïl. Je rappelle pour vos auditeurs que cet accord, c'est un accord signé entre le président Michel Aoun, après son retour d'exil, et Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah. Aujourd'hui, cette équation-là de l'ombrelle de légitimité accordée par les chrétiens au Hezbollah est tombée. Et non seulement cela, il y a les alliés pro-syriens du Hezbollah qui n'ont pas pu accéder historiquement pour la première fois après le retrait des troupes syriennes au Parlement. C'est la première fois que nous avons des figures comme Mia Mouhab, qui est une figure druze pro-syrienne qui multiplie ses visites à Damas chez Bachar al-Assad, et ses preuves d'amitié aussi. On a Talal Erslan, on a Karameh au nord, à Tripoli, qui a été battu, Hardan au sud aussi. Ça, c'est vraiment, c'était les représentants du régime syrien au Liban, du régime syrien au Liban. Il y a également le Parti nationaliste syrien qui aussi n'a pas été représenté au Parlement aujourd'hui. Donc, nous pouvons parler aujourd'hui d'un vote pour la souveraineté du Liban, d'un référendum pour la souveraineté, avec toute la diversité que cette souveraineté peut inclure d'indépendants, de partis traditionnels, de candidats qui sont aujourd'hui des députés issus de la contestation dans la rue aussi. Et donc c'est ça le facteur qui a affaibli le Hezbollah aujourd'hui. Le Hezbollah n'a plus cette majorité et donc il ne peut plus profiter de ce système libanais parlementaire monocaméral, c'est-à-dire où la Chambre des députés décide tout. C'est la clé de tout, les élections parlementaires.
La clé de voûte du système politique libanais.
Exactement, c'est la clé de voûte de notre système politique libanais, et même le Parlement est supérieur dans ses lois qu'il légifère, et dans ses décisions, il est plus fort que même le Conseil constitutionnel. C'est pour cela que toujours, tous les quatre ans, c'est une énorme bataille qui se passe au Liban, avec toutes les tensions qui l'accompagnent, parce que justement, tout tient, ou bien tout passe par le Parlement, que ça soit les décisions régaliennes, que ça soit l'élection présidentielle, que ça soit aussi la désignation du Premier ministre qui a beaucoup de prérogatives au Liban, et que ça soit aussi au niveau des équilibres dans les différents gouvernements. Cet équilibre-là, il rimait avec des gouvernements d'union nationale dans les dernières années, parce que il y avait un bras de fer au niveau du Parlement, donc moitié-moitié avec une certaine majorité pour le Hezbollah et ses alliés. Aujourd'hui, il n'y a plus cette équation-là. Et donc, on peut accéder vraiment et véritablement à des gouvernements dits souverainistes. On entend quoi par des gouvernements souverainistes? Ce n'est pas vraiment le sens qui peut être parfois mené à UEADIA, tiré à UEADIA. Ici en Europe, j'explique ce que veut dire souverainisme au Liban, c'est-à-dire pas de présence d'armes sur le territoire libanais en dehors des armes de l'armée libanaise, ce qui est le béaba de tout état de droit, en fait. Mmh. Et ça, ce n'est toujours pas le cas au Liban. Nous avons une milice armée qui est le Hezbollah. On a toujours des armes éparpillées sur tout le territoire libanais, un peu comme le phénomène américain. Chacun peut s'acquérir une arme. Et après, c'est un peu la pagaille dans tout le territoire libanais. Il y a les camps palestiniens qui ne sont toujours pas désarmés. Il y a des citoyens libanais qui détiennent des armes, chrétiens, musulmans, toutes confessions confondu en fait. Et ça, c'est un phénomène qui est à éradiquer aujourd'hui pour que l'État recouvre un peu sa dignité, même sa dignité et sa souveraineté sur le territoire libanais. Il y a également une série de réformes qui est à appliquer, et ça sera le grand enjeu du gouvernement, parce qu'évidemment, il y a une bataille souverainiste, mais il y a une bataille économique aussi. Le peuple libanais, il vit aujourd'hui sous le seuil de la pauvreté. Il n'a pas accès au courant électrique, il n'a pas accès à Internet, ou bien très rarement et d'une manière très très sporadique. Aujourd'hui, ça c'est des priorités aussi. Il ne faut pas reléguer au second plan les revendications vitales des Libanais, c'est-à-dire avoir droit à l'éducation, à l'électricité, à l'eau, et aussi à une certaine dignité, à un certain niveau de vie aussi. Ça c'est une revendication centrale qu'il ne faut absolument pas ignorer par la nouvelle majorité au Parlement libanais.
La journaliste Maya Kadra, elle est l'une des invitées de Et si on en parlait, ce soir à 19h et 23h sur Radio Orient. La Commission européenne a adopté une déclaration conjointe sur un partenariat stratégique avec les pays du Golfe. Il s'agit de renforcer la coopération de l'Union européenne avec le Conseil de coopération du Golfe, une coopération axée notamment sur l'énergie, la transition verte et le changement climatique. L'émissaire de l'ONU en Irak, Janine Ennis Plaschert, appelle la classe politique irakienne à sortir de la crise politique. Elle met en garde contre le risque de débordement dans la rue. Plus de 7 mois après les élections législatives, les députés irakiens n'ont toujours pas élu de président de la République. Une élection dont dépend la nomination du Premier ministre et du reste du calendrier politique. En Égypte, peine capitale pour le meurtrier d'un prêtre copte. Le religieux avait été poignardé à Alexandrie le mois dernier. Le ministre turc des Affaires étrangères a qualifié d'extrêmement positive sa rencontre avec Anthony Blinken à New York. Ces discussions entre les deux chefs de la diplomatie ont eu lieu alors qu'Ankara menace de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. La Banque mondiale va débloquer une aide de 12 milliards de dollars pour répondre à la crise alimentaire dans le monde, une crise aggravée par la guerre en Ukraine. Ces fonds iront en priorité aux pays d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe de l'Est et d'Asie centrale et du Sud. En France, le décès de Françoise Rudetsky, fondatrice de SOS Attentat, créée pour défendre les victimes du terrorisme. Morte à l'âge de 73 ans, elle avait été grièvement blessée lors de l'attentat du Grand Véfour. C'était en 1983. Françoise Rudetsky avait réussi à faire reconnaître aux victimes du terrorisme le statut de victime civile de guerre et la possibilité pour les associations de se porter partie civile lors des procès. L'invité de Pluriel hier soir était Sophia Ossini, candidate aux législatives dans la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône. Elle évoque ses projets pour sa ville de Marseille.
Alors moi, dans ma circonscription, les quartiers emblématiques qui ont besoin d'être soutenus, évidemment, il y a la Sauvagère, Benza, Saint-Tis, la Cailleule, les Baumettes, la Pauline, les Marronniers, il y a Caplette également qui est passée en QPV il y a quelques années maintenant. Et on voit bien qu'il y a très très peu de transports en commun dans ces quartiers, que c'est très compliqué quand on n'a pas le permis, quand on n'a pas de véhicule, quand on n'a pas de moyens et qu'en deçà de 25 ans, on n'a pas accès au RSA. C'est une circonscription en plus où la moitié de la population a quand même moins de 35 ans et où le taux de chômage avoisine les 40%. Et puis à l'échelle de Marseille, je pense quand même aussi au quartier Félix Piette, qui est le quartier le plus pauvre d'Europe. Et sincèrement, je m'inquiète aujourd'hui à l'occasion de cette échéance électorale, de cette élection législative, de ne pas voir de candidats des cartes populaires, de candidats féministes pour pouvoir défendre. C'est quand même un drame à l'échelle des Bouches-du-Rhône de voir aussi peu de femmes candidates. Je suis une des celles qui est en campagne maintenant depuis 6 mois pour aller démocratiser aussi les enjeux de cette élection, expliquer à quoi sert un député, à quoi je pourrais servir aussi sur le terrain, comment je peux donner une envergure nationale à des enjeux de notre territoire avec cette circonscription. Elle a une identité, elle a une sociologie qui est particulière, au-delà de la sociologie de Marseille ou des Bouches-du-Rhône. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des candidatures comme la mienne, ancrées dans le réel, en proximité avec les habitants et en empathie totale avec les difficultés qu'ils traversent, que ce soit en lien avec l'emploi et la formation, les transports en commun, le logement indigne aussi, qui est un vrai sujet, rappelons-nous, au moins de la mémoire des personnes qui sont mortes le 5 novembre 2018. C'est l'engagement que je veux porter aujourd'hui pour Marseille, pour mes voisines et mes voisins dans la circonscription qui vont devoir élire le 12 juin, les 12 et 19 juin prochains, leur député, celui qui pourra défendre le plus possible toutes les politiques publiques qui sont fléchées envers Marseille. Il y a besoin d'une représentation à l'Assemblée nationale des politiques publiques marseillaises, parce que c'est un territoire particulier qui a encore besoin d'être accompagné et qu'on poursuive le plus radicalement possible la lutte contre le réchauffement climatique, comme je le disais, contre le logement indigne, éradiquer la misère et la pauvreté, et aussi de faire de Marseille une ville féministe, une ville accueillante et sécure pour les femmes.
Sophia Ossini, Emmanuel Macron s'est rendu à plusieurs reprises à Marseille. Il a annoncé un plan qui vise à réhabiliter certains quartiers, notamment les écoles qu'il faut rénover. Il veut expérimenter de nouvelles méthodes pédagogiques. Est-ce que vous avez le sentiment que le chef de l'État fait ce qu'il faut pour les habitants de Marseille ?
Écoutez, la première des choses, c'est qu'il a quand même répondu à l'appel des élus locaux marseillais, qui ont engagé une discussion et qui a donné donc ce plan Marseille en grand. Maintenant, à titre personnel, je trouve qu'on aurait pu aller plus loin dans l'effort déployé, parce que on est en train de lancer un chantier historique pour la rénovation des écoles, mais on a un tas d'autres infrastructures qui méritent d'être rénovées, qui méritent d'être relancées, à l'instar de ce centre social qui est quand même un peu l'emblème, on va dire, de la désaffection du service public dans les territoires périphériques et notamment dans les quartiers populaires. Donc j'en veux pour preuve toutes ces infrastructures qui méritent qu'on y accorde davantage d'attention, des enjeux immenses, notamment en termes de rénovation thermique, pour tous les enjeux écologiques qui nous attendent. Et voilà, et j'attends de l'État davantage d'efforts, davantage de moyens, à la fois pour les élus locaux qui puissent travailler sereinement, mais également pour tout le tissu associatif, parce que véritablement, Marseille tient grâce à l'effort incroyable de tous les acteurs du réseau associatif et des entrepreneurs sociaux marseillais qui tiennent à bout de bras cette ville en accompagnement, voilà, avec les nouveaux élus qui sont arrivés et leur volontarisme politique. Mais ça ne suffit pas et on a besoin véritablement de davantage de moyens.
Sophia Ossini, candidate aux législatives dans la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône. Elle était l'invitée de Pluriel hier soir, émission que vous pouvez écouter sur radioorient.com. Enfin, deux mineurs ont été placés en garde à vue après avoir menacé une enseignante avec une arme qui s'est finalement révélée factice. Les faits se sont déroulés dans un collège de Besançon. Selon le rectorat, deux garçons extérieurs à l'établissement sont entrés dans une classe de 5e et ont commencé à perturber un cours d'anglais avant de brandir une arme en direction de l'enseignante qui tentait de s'interposer. Cette édition est terminée. Je vous retrouve à 17h30 pour le journal. Excellente journée à tous.